On inspire, on expire, on respire, on souffle.
Carbone zéro.
Une émission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions, afin que le monde et la Terre tournent plus rond.
Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. L'émission Carbone Zéro relaie la voix de ceux qui ont fait le choix de la cohérence pour pas à pas vivre le changement. Alexis Robert incarne parfaitement la sobriété heureuse. Auteur de plusieurs essais pour présenter son mode de vie, qu'il base sur les valeurs de la simplicité volontaire comme il aime à le dire. Alexis accueille tout au long de l'année de nombreuses personnes désirant découvrir et partager son quotidien. Cette émission Carbone Zéro lui donne la parole. On est en train de faire un tour de France de tous ces lieux alternatifs, tous ces lieux d'expérimentation collective, les éco-villages, les habitats participatifs, et je me retrouve dans la forêt de Brocélian, sur le terrain d'Alexis Robert à La Guette, l'association Terre et Partage, ici en pleine forêt de Brocélian. Donc je vais m'intéresser un peu à ton histoire, à la vie de ce lieu, et savoir qu'est-ce qui t'a amené à t'implanter ici à La Guette.
C'était un espace agricole qu'on m'a proposé, une paysanne qui prenait sa retraite, et j'ai mis 6 mois à accepter sa proposition, car j'avais déjà démarré deux fermes en écologie, écologie et sociale, et là j'avais plus trop envie de recommencer encore. J'avais 60 ans, quelque chose comme ça, 61. Et finalement, j'ai quand même accepté de prendre le lieu, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire? Je n'avais plus envie de produire, du maraîchage ou autre. Et donc je me suis dit, je vais ouvrir ce lieu pour tout ce qui est alternatif, dans tous les domaines, sans avoir un programme précis, sans faire un budget, sans rien du tout. Simplement, j'ouvre le lieu, puis on verra bien ce qui se passe. Et j'avais à peine ouvert, j'y étais pas encore, et j'avais un groupe de 300 personnes qui arrivaient. Et c'était les amis de Silence. Donc ils m'ont dit, on sait que tu viens d'avoir un terrain, donc nous on aimerait bien faire notre rencontre annuelle ici. C'était la deuxième rencontre annuelle des Amis de Silence, avant, la première étant au Larzac. Et j'ai dit oui, je veux bien moi, mais c'est un terrain agricole, il n'y a rien, il faut tout faire. Et bien on vient à 80 pendant 8 jours, on prépare tout, on fait les toilettes sèches, les douches solaires, on construit un grand barnum pour recevoir tout le monde. Et puis la semaine d'après, on commence ça.
Mais le terrain, t'as été mis à disposition, tu as investi sur ce terrain, comment ça s'est passé?
J'ai acheté le terrain, pas très cher.
Tu disais c'était un terrain agricole, mais tu as quand même pu construire aujourd'hui différentes habitations sur ce terrain.
Il y avait une ruine qui avait servi de cellier. En Bretagne, on dit cellier, c'est une grange, quoi, où on fait le cidre. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait sur le terrain, donc c'est des ruines et les terres agricoles.
Et donc là, quand tu as récupéré cette ruine, tu en as fait une maison avec cette volonté de réduire au maximum ton empreinte écologique, oui, mais aussi d'être dans une forme d'autonomie, si j'ai bien compris.
Oui, moi c'est important de ne pas dépendre au minimum de la société. Il y a toujours un aspect, on dépend toujours de la société, mais plus on est autonome, mieux ça vaut. Donc j'ai toujours vécu, plus je peux dire que je crois que depuis toute ma vie, j'ai vécu modestement, dans la simplicité, la sobriété heureuse, si on se réfère à Pierre Rabhi. Et donc je continue tout simplement.
Mais pourquoi avoir fait le choix de vivre simplement ? Donc, tu fais partie d'une génération où tout fonctionnait, l'emploi fonctionnait, on était dans le tout jetable, dans l'illusion du matériel. Pourquoi toi, tu n'es pas rentré dans ce système-là et tu as fait le choix de cette simplicité volontaire ou de cette sobriété heureuse ?
Ben parce que ça me correspondait sans doute à ce que j'avais dans le fond de moi-même. Parce que j'étais élevé comme ça aussi, hein, j'étais élevé dans une très très pauvrement, enfin oui, les gens diraient pauvrement, moi j'aime pas trop penser que j'étais pauvre, mais c'est comme ça. Puis moi ce qui compte c'est vivre heureux ensemble, tout simplement, tout le reste m'intéresse pas.
Qu'est-ce que c'est que la pauvreté ? Qu'est-ce que tu entends par le mot pauvreté ? Parce qu'on peut parler de... Qu'est-ce que c'est qu'être pauvre ?
Pauvre, c'est être libre, pour moi. D'abord ça. Parce que tout ce qui... Toute la recherche des richesses matérielles nous rend prisonniers. Nous ligote. Et la pauvreté, c'est l'art d'être libre. Et ben, il y a des références. Moi, je suis qu'un petit bonhomme, mais il y a beaucoup de références. Gandhi, il a choisi la pauvreté aussi. François d'Assise, il a choisi la pauvreté. C'était des gens extrêmement libres, des personnes extrêmement libres qui ont fait du boulot sur la terre.
Tu as dit un mot très important, Gandhi ou François d'Assise ont choisi. Donc, la pauvreté, c'est d'être libre à partir du moment où on le choisit.
Évidemment, et il y a une grande différence entre la misère et la pauvreté. Beaucoup de gens parlent de pauvreté alors qu'ils parlent de misère. C'est tout à fait différent. La pauvreté, c'est quelque chose qu'on choisit, c'est un choix de vie. Alors que la misère, c'est quelque chose qui nous est imposé.
On vit dans un monde où beaucoup de gens essaient de remettre du sens au cœur de leur vie. Beaucoup de jeunes n'ont plus forcément envie de s'adapter à ce système capitaliste, à ce système qui quelque part, on se rend bien compte, atteint ses limites ou les a déjà atteintes, et donc cherche d'autres directions, d'autres moyens de vivre. Donc toi, j'imagine que depuis des années, tu les vois passer, tous ces jeunes. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette jeunesse que tu observes autour de toi ?
Oui, depuis une trentaine d'années, puisque avant j'étais dans un autre écolieu, j'en ai créé trois ou quatre, quoi, c'est ça. Et donc j'ai vu passer des milliers de personnes, principalement des jeunes, mais pas que des jeunes. J'ai des gens de 50-60 ans qui ont envie de changer de vie, qui en ont marre de la ville, qui en ont marre de leur boulot, etc. Donc actuellement, je suis disons en moyenne, il passe à peu près 2000 personnes dans l'année ici. Voilà. Donc, que je reçois, voilà.
Quand tu dis tu reçois donc 2000 personnes, il y a une question que je me pose et j'observe ça dans les différents lieux qu'on découvre. Beaucoup de gens veulent s'installer dans un écolieu, finalement peu y restent et ça fait 20 ans que tu es là et on se rend compte que finalement il y a du passage mais les gens ne restent pas. Pourquoi ?
C'est-à-dire que la plupart de ces personnes sont en recherche. Donc elles vont de lieu en lieu pour voir ce qui correspond le mieux à elles, quoi. Mais il y a aussi des personnes qui sont, je dirais, errantes, parce qu'elles ne sont pas prêtes à se fixer quelque part, à démarrer quelque chose. Donc elles sont dans leur imagination, dans leur désir, qui est tout à fait chouette, mais elles se créent une certaine instabilité. Si bien que dès qu'elles s'arrêtent dans un endroit, et avec l'intention d'y demeurer quand même un certain temps, elles se barrent à la première difficulté. Ça, c'est courant, hein, c'est très courant. Mais pas tout le monde, mais il y a quand même beaucoup de jeunes et de moins jeunes. Hein. Lié forcément à des jeunes de 20 ou 30 ans. Devant la difficulté, devant l'effort, ça ne tient pas.
C'est quoi la difficulté ? C'est quoi l'effort ?
L'effort, ben, c'est d'être tenace. Si je vis, c'est que je suis têtu, a dit un paysan brésilien. C'est ça. On n'arrive à rien si on n'est pas têtu, si on n'est pas tenace, si on n'est pas persévérant dans ce qu'on a projeté. Forcément, dans tout projet, il y a des difficultés, il y a des incompréhensions, il y a des heurts, même parfois. Parfois, on se retrouve au tribunal, des choses comme ça. Eh bien, il faut tenir, quoi. J'ai tenu parce que je savais ce que je voulais, quoi. Et puis, il y a aussi, je pense que pour tenir, il faut qu'une des dimensions de notre vie soit spirituelle. Ça, je pense que c'est important. Quand je dis spirituel, ça ne veut pas dire religieux. Moi, je fais partie d'aucune religion. Je n'ai aucune croyance. Mais par contre, j'ai une vie spirituelle et que je travaille depuis 60-70 ans.
On inspire. On expire. On respire. On souffle.
J'essaie de revenir à la notion du vivre ensemble, cette notion du collectif. Comment est-ce que tu organises ça? Comment est-ce que tu arrives avec le nombre de gens qui passent par ici?
Oui.
C'est compliqué, le vivre ensemble. Comment est-ce qu'on arrive à cadrer des gens qui viennent du tout venant? Enfin, tu choisis pas forcément quels sont les gens qui passent sur le terrain, donc ça peut forcément créer aussi des complications.
Oui, ici le lieu est ouvert vraiment à tout le monde. Je reçois des personnes qui sont sur la route, des ce qu'on appelle les SDF. Je reçois des personnes qui sont en addiction, drogue, alcool, etc. Et donc, comme je reçois des gens plus huppés, disons, il faut s'adapter à chacun. Il faut être très ouvert. Il faut commencer par ne pas rejeter, même si c'est un gros capitaliste, il faut pas le rejeter. Il faut essayer de dialoguer. Et voilà, il y a une charte à l'entrée du parking qui précise un peu quand même le but du lieu.
Pourquoi avoir fait le choix d'accepter et d'accueillir tout le monde, sachant que les gens sont loin de notre propre vision, de notre propre schéma de pensée, plus ça va être compliqué de s'entendre et d'avancer ensemble. Pourquoi cette ouverture sur l'ensemble de la société et pas simplement sur une cible qui permettrait peut-être de rendre le projet plus facile?
Mais je pense qu'on est tous sur Terre, on est tous frères et sœurs, hein, qu'on le veuille ou non. Donc il faut exclure personne. Il faut exclure personne et il faut essayer d'avancer ensemble. C'est pas toujours évident, mais il faut essayer. Même le maire d'ici, pourtant, il m'a fait des vacheries, mais je lui dis toujours bonjour. Et je lui ai passé ce que j'écris et tout pour qu'il essaie, en espérant qu'il comprendrait un petit peu mon objectif, qui n'est pas d'être contre lui, mais de faire avancer un certain nombre de choses dont la société a bien besoin. Enfin, du moins, l'humanité, du moins.
J'ai l'impression de parler à la bienveillance, cette notion d'ouverture, d'accueil, d'acceptation, de résilience finalement sur le monde extérieur. C'est rare, Alexis, Robert, d'avoir quelqu'un en face de soi qui soit dans le pardon. J'ai l'impression que le mot pardon pourrait vous habiter, vous anime.
Oui, parce que pardon certainement, parce que moi j'ai beaucoup de choses à me faire pardonner aussi, donc voilà. Donc je pardonne au maire, hein, je dis j'en veux pas. Si un jour il a besoin de moi, j'irai lui rendre service, hein, sans problème.
Comment se passent les séjours des gens qui viennent ici? Comment ils s'intègrent dans le lieu?
Oui, concrètement, oui. C'est-à-dire qu'il y a différentes personnes qui viennent ici. Il y en a qui viennent simplement pour discuter avec moi. Parce que je fais de l'accompagnement de porteurs de projet en milieu rural. Je reçois aussi des personnes qui ont des difficultés d'ordre psychologique, relationnel. Avant d'être dans des écolieux, j'ai travaillé en psychiatrie. Et donc, j'ai encore des gens depuis 40-50 ans qui viennent encore me voir, que je continue à suivre. Et puis d'autres qui viennent par bouche à oreille. Donc, je reçois plein de personnes d'un peu tous les âges qui viennent pour, disons, confier un peu leur difficulté à vivre avec les autres.
Il y a une implication qui est demandée à ces personnes quand elles arrivent. Donc, si on vient une semaine, un mois, parce qu'on parle du woofing. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des tours des écolieux en faisant du woofing. Oui. Donc, un système d'échange. On travaille, on échange de quoi, on est nourri, logé. Mais ici, qu'est-ce que tu demandes aux gens qui passent?
Alors, pour ceux qui viennent simplement pour échanger sur leur, pour être accompagnés, là, c'est gratuit. Je demande rien. Pour ceux qui viennent pour être ici une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, deux ans, trois ans, ça c'est variable, c'est en woofing. Donc 2h30 de travail par jour, 2h30 de travail en échange du repas du midi et de l'hébergement. Voilà. Donc, c'est pas une communauté, mais c'est un lieu quand même où les personnes qui s'y trouvent se retrouvent à travailler 2h30 le matin et ensuite à manger ensemble.
Est-ce que c'est pas une communauté, mais est-ce que c'est un collectif ici?
On peut parler de collectif, oui. Il y a un désir de collectif ici, c'est très fort.
Les gens sont logés, hébergés comment? Donc, parce qu'il y a un système de, je sais pas, de loyer, de propriété. Là, on est dans un quartier. On a vu d'autres structures un peu partout sur le terrain. Est-ce que tout appartient? Est-ce que des gens sont aussi propriétaires? Comment ça fonctionne d'une manière économique?
Ben, au départ, j'étais propriétaire des champs et puis des ruines. Et là, depuis 2-3 ans, je fais tout ce que je peux pour que ça devienne collectif. C'est-à-dire qu'on a démarré une SCCI, Société Civile Coopérative, dans l'objectif que la propriété, donc le terrain, soit la propriété d'un collectif. C'est très, très difficile de mettre en place parce que là, pendant 2 ans, il a fallu faire plein de réunions avec des quantités de papiers, etc. Tout est prêt maintenant. Il n'y a plus qu'à emmener tout ça au tribunal de commerce. Et puis, j'ai plus personne pour l'emmener. Parce qu'il y a eu des gens qui sont partis. D'autres. Voilà. C'est très, très laborieux. Mais ça va se faire quand même.
Pourquoi les gens partent?
Il y a beaucoup de problèmes d'égo. Moi, je veux que ce soit comme ça, et donc si l'autre il veut pas, ben moi je m'en vais, je suis pas d'accord. Voilà, il y a beaucoup de départs comme ça. Le dernier départ, ça m'a fait vraiment beaucoup de mal. C'est une personne ici qui a été là 7-8 mois depuis le mois d'août l'an dernier. Et puis il y a eu le fameux confinement, et donc elle est partie se faire confiner, à Nantes chez un copain. Et puis elle est revenue en nous disant vous n'êtes pas de mon niveau. Effectivement, je recevais des gens qui étaient tout simples à ce moment-là, qui étaient braves comme tout. Pour elles, ils n'étaient pas de son niveau.
C'est incroyable qu'un lieu comme celui-là ne trouve pas quelqu'un qui a envie de s'impliquer dans la durée. J'ai vraiment l'impression que beaucoup de gens sont en recherche. Oui. Et là, il y a cette possibilité, cette ouverture que tu sembles avoir hein, dans l'idée de transmettre un endroit, de le faire vivre avec des valeurs. Oui. Et pourtant, il y a quelque chose qui bloque.
Il y a effectivement quelque chose qui bloque. Je cherche à savoir, mais je n'ai pas encore trouvé. Parce qu'il y a eu plusieurs tentatives depuis 7-8 ans. Ça fait 7-8 ans que je cherche une relève, quoi. Et je veux que ce soit une relève collective. La vision du lieu. Moi, c'est un lieu ouvert. Un lieu ouvert à toutes les alternatives, ouvert à la paix, ouvert à la communication non violente. Voilà, je résume comme ça.
Ah oui, la question c'était vraiment ça, hein, dire que ce lieu est accessible, cette envie de transmettre quelque chose, mais avec une vision qui est donc celle de la paix, un lieu qui serait un lieu d'expérimentation où chacun pourrait venir vivre une écologie intérieure, une écologie pratique, une écologie qui permettrait de trouver des alternatives au système actuel.
Tout à fait ça, c'est tout à fait ce que tu dis. Il y a le mot paix à l'entrée du terrain. Un peu plus loin, il y a un massif avec le sigle de la paix. Un peu plus loin, il y a une spirale de plantes aromatiques avec un olivier au centre, toujours la paix. Et on voit aussi d'assez loin, on voit une colombe blanche qui est au milieu d'un mandala.
Tu as jamais peur, Alexis? Tu as jamais eu un sentiment des fois de peur de te rattacher à un collectif ou de retourner dans le système? Est-ce que tu as toujours eu cette espèce de confiance qui t'habite depuis ta jeunesse? Ou d'où ça te vient, cette confiance?
Alors cette confiance, je pense que quand on me pose ce genre de questions, je retourne voir ma grand-mère. J'ai été élevé par une grand-mère. Que ma mère est morte quand j'avais 4 ans et mon père était absent. Et ma grand-mère était paralysée en plus. Elle n'avait plus de voix. Ses cordes vocales étaient paralysées aussi. Mais c'est cette grand-mère qui a été ma voix dans ma vie. Elle n'avait rien. On était pauvres on était vraiment pauvres. Hein. On vivait avec quelques poules, quelques lapins, une chèvre. Et voilà, et dans une bicoque qui était une véritable passoire, l'eau du ciel nous tombait dessus, elle passait par-dessous la porte, l'eau passait par-dessous la porte, on était obligé avec des boîtes de conserve, tu sais, vides, de racler sur la terre battue, parce que ça faisait des trous et puis il y avait plein d'eau dedans, il fallait racler tout ça, et moi j'ai vu qu'il y avait rue dedans. Tous les gens du village, du hameau, etc., quand ils avaient un problème, Il venait ma grand-mère, ils se mettaient sur le bord de la porte, parce qu'on avait une porte à deux battants. Ils entraient, ils se mettaient, ils s'assoyaient près d'elle, elles prenaient leurs mains, et puis elles les laissaient parler. Elle ne disait rien, elle ne pouvait pas parler. Et puis une demi-heure, je ne sais pas, ou trois quarts d'heure après, il repartait, il y avait une morale, c'est parti. Et un jour, il y a une bohémienne, je sais, donc une gitane, qui est passée avec une ribambelle d'enfants, 5-6 enfants derrière elle. Elle m'a dit, va chercher la caisse de pommes de terre qui nous reste. Donc j'étais chercher le cajot de pommes de terre. Et elle me dit, t'en mets la moitié pour la bohémienne et l'autre moitié pour nous. Voilà.
Ça, tu as continué à appliquer ce don presque inconditionnel de tes possessions envers les autres.
Ah oui, tout à fait. Ça, c'était inconditionnel.
Je veux bien qu'on parle du côté économique. De quoi tu vis, Alexis ? Est-ce que tu peux me parler des ressources dont tu as besoin pour ton quotidien ?
Alors, j'ai beaucoup trop d'argent. J'ai 930 euros de retraite par mois, vous vous rendez compte ? Il paraît que je suis sous le seuil de pauvreté, c'est de la blague, ça. Non, j'en ai beaucoup trop. Alors, il faut bien que je m'en débarrasse. J'ai pas envie de le mettre à la banque. Donc, je partage simplement, c'est tout simple. J'ai 20 parrainages d'enfants actuellement dans 18 ou 19 pays. Et je soutiens une quarantaine d'associations écologiques, humanitaires, sociales, etc. Voilà.
Pourquoi tu gardes rien on revient à cette notion des peurs. Pourquoi tu gardes rien à la banque ou quelque part au cas où? Parce que la plupart des gens ont ce besoin de sécurité. Avoir de l'argent, c'est quelque part se sécuriser.
Oui, j'ai encore un petit peu d'argent à la banque, mais j'aimerais bien ne pas en avoir du tout. L'argent, c'est un moyen, c'est un outil, c'est tout, c'est pas autre chose. C'est un outil qui doit circuler, qui doit servir. C'est pas un truc qui doit rapporter. Un outil, ça fait pas de petit. Donc, l'argent ne doit pas faire de petit, ne doit pas donner des intérêts, etc.
Tu dis tu es beaucoup trop riche avec 930 euros de retraite. De combien tu as besoin réellement par mois ?
Oui, je pense que je compte. Pendant très longtemps, j'ai compté, je notais tous les jours ce que je recevais, ce que je dépensais. Mais maintenant, je ne fais plus, j'en ai marre. Je suis comme pèlerin de paix qui, au début, comptait le nombre de kilomètres qu'il faisait à pied. Puis au bout d'une dizaine d'années, je me suis dit, ça ne sert à rien. Je marche et tout. Ouais. Là, c'est pareil. Mais je pense qu'actuellement, je dépense à peu près pour moi, hein, pour mes besoins personnels, je dois être autour de 150 euros par mois. Voilà, donc je peux dégager tout le reste. Et si on veut arriver à avoir un monde plus humain, plus fraternel, plus solidaire, eh bien, il faut se débarrasser de tout ça.
Quels sont c'est pas des besoins d'argent, mais quels sont tes besoins pour vivre ? Enfin, qu'est-ce qui te nourrit vraiment et qui te fait avoir cette force de vie à ton âge et puis cette joie de vivre aussi ?
Ben, c'est vous. C'est vous et tous les autres qui viennent. Moi, quand je suis une journée ou deux ou trois jours pendant le confinement, là, j'avais plein de bouts de travail à faire, parce que j'étais tout seul pour entretenir le terrain. Mais je m'ennuyais un peu aussi parce que moi, j'ai besoin des autres, quoi. Ce sont les autres qui me font vivre. Moi, je me donne aux autres, mais les autres se donnent à moi aussi.
Tu as quel âge, Alexis ?
81.
Quels sont tes projets futurs ?
Je vis à l'instant. Maintenant, j'avais des projets, donc je veux arriver à ceci, je veux arriver à cela. Mais maintenant, je vis aujourd'hui. Demain, si je suis encore sur Terre, je vivrai demain. Voilà. J'ai pas tout ce qui peut attacher aussi. J'ai pas de télé, j'ai pas Internet, j'ai pas de portable, j'ai pas de frigo, j'ai pas de congélateur, bien sûr. J'ai pas tous ces trucs-là, c'est parce qu'ils sont vraiment pas du tout indispensables. Mais j'ai ma liberté. Je suis libre. Quelqu'un arrive et j'ai pas annoncé ni rien, mais je suis libre, je suis là. Y a pas de problème.
On inspire. On expire, on respire, on souffle.
Alexis, je suis passé ici sur ton terrain il y a 5 ans et tu m'avais montré ta maison avec les différents systèmes de récupération d'eau de pluie, des panneaux solaires. Et aujourd'hui, je te rencontre dans un quarter, donc une surface bien plus petite. Et je t'ai demandé, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas l'interview dans ta maison ? Et tu me disais qu'elle a brûlé.
Oui, ma maison a brûlé au mois de mai, il y a 2 ans. Un jour que j'étais parti faire des courses, et il s'est trouvé pendant une heure personne sur le terrain, et c'est pendant ce temps-là qu'elle a brûlé. On ne sait pas pourquoi. Les pompiers n'ont pas trouvé, moi non plus, et j'ai pas trop cherché non plus.
Comment tu accueilles ça? Parce que c'est quand même symboliquement la maison qui brûle. C'est quand même une perte totale de tous ces repères. Comment est-ce que toi, tu as vécu ça intérieurement?
J'ai vécu ça. C'est dur, hein, sur le coup. C'est assez vache, quand même. J'avais plus rien, même pas d'habits, sauf ceux que j'avais sur moi. C'est parce qu'on a ce qui a le plus important, c'est ce qu'on est.
C'est pas ce qu'on a le plus important, c'est ce qu'on est. Waouh!
Et est-ce que, Alexis, tu as déjà eu envie d'avoir une famille? Enfin, est-ce que tu es tombé amoureux, l'envie de fonder une famille et de ouais, enfin, parce que je vois que tu as une famille très élargie de plein de gens qui viennent vers toi, mais est-ce que l'envie d'avoir une plus jeune, peut-être, est-ce que ça t'est un moment titillé?
Mais j'ai je sais pas combien, mais des milliers d'enfants. Des milliers d'enfants. Déjà, tous ceux que j'ai parrainés dans une vingtaine de pays. Ça fait 40 ans que je parraine, donc ça commence à faire du monde. J'ai plein de personnes qui viennent me voir qui eux n'ont pas de parents, etc. Donc je leur dis, tu es mon fils ou tu es ma fille, c'est tout. Mais j'ai eu des enfants aussi. J'étais marié, j'ai été 15 ans marié, j'ai eu 6 enfants, 3 garçons, 3 filles. Ce sont mes enfants aussi. Je les accueille, etc. Mais il y a d'autres personnes qui sont autant mes enfants que les enfants que j'ai eus par mariage, etc.
De quoi tu as besoin? Qu'est-ce qu'il te manque aujourd'hui?
Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui? Il me manque une relève, parce que j'aimerais bien que ce lieu continue avec le même esprit. Donc j'aimerais bien qu'une équipe soit vraiment en place et perdure, quoi. Pour le moment, c'est un peu l'impermanence, ça ne dure pas. C'est ce qui me manque un peu, c'est cet aspect de ça, c'est cette réalité, qu'il y a une équipe qui prend ma place, quoi. Oui.
Et quelles sont tes richesses aujourd'hui?
Mes richesses aujourd'hui, ce sont les autres. Ça, il y a aucun doute. C'est ma richesse, c'est tout ce que je partage avec les autres, tout ce que les autres veulent partager avec moi.
Alexis Robert, donc on est chez toi à la forêt de Brocéliande, sur le lieu La Guette, un lieu de passage, un lieu de transmission aussi, avec Alexis qui est quand même un sacré personnage, qui est vraiment touchant, et cette notion de bonté qui, moi, me touche vraiment. Peut-être revenir, comment est-ce que tu gères les conflits? Quand dans le collectif, on est face à des problèmes, parce que ça existe, comment est-ce que tu gères ça?
J'essaie de le gérer avec le maximum d'ouverture. Maximum d'ouverture, en considérant que chacun, même s'il pose des problèmes, et je ne rejette jamais quelqu'un. Si je dis à quelqu'un, à ce moment, c'est pas possible que tu restes là, c'est pas possible, ça pose trop de problèmes, donc il est préférable que tu t'en ailles, mais je te fous pas la porte. Si un jour tu veux revenir, tu peux toujours venir discuter avec moi, ma porte est toujours ouverte. Si je dois prendre une décision par rapport à quelqu'un, je le fais avec le plus d'humanité possible, et toujours en laissant une porte ouverte.
Alexis, merci beaucoup.
Dans cette émission Carbone Zéro, vous écoutiez Alexis Robert, le sage de Brocéliande.
On inspire, on expire, on respire, on souffle.
Carbone Zéro.
Une émission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions afin que le monde et la Terre tournent plus rond.